Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de Place de la Toile, aujourd'hui, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton se demandera pourquoi il n'y a pas la 3G en Cisjordanie. La lecture de la semaine dans les réseaux, les bonnes nouvelles se répandent plus vite que les mauvaises. Le son, ce sera un morceau de Léo Le Bug, un nom prédisposé quant à notre invité du jour, Serge Tisseron, pour parler de ce qui sépare ou réunit peut-être la culture du livre et la culture des écrans. Devinez sans doute au fond sonore qui nous entoure, nous sommes en cette fin d'après-midi en direct depuis le Salon du Livre qui se déroule à Paris, Porte de Versailles. Salon du Livre où, comme tous les ans, une bonne partie des émissions de la chaîne se sont déportées pour quelques jours. Alors venir au Salon du Livre est chaque année, pour nous qui traitons de culture numérique, une sorte de casse-tête. En quelques années, on a tourné la question du livre et du numérique dans à peu près tous les sens possibles. Édition numérique, représentation du numérique dans la littérature, expérience d'écriture informatique, etc. Or, il faut se renouveler. Et voici que cette année, une manière de reposer le problème s'est imposée, puisque fin janvier, l'Académie des sciences a rendu un rapport sur les enfants et les écrans. Alors, parmi les rédacteurs de ce rapport, on trouve Serge Tisseron, bien connu psychiatre et psychanalyste, intéressé depuis longtemps par les écrans. Et Serge Tisseron a fait en guise de présentation devant l'Académie des sciences un exposé sur la nécessaire complémentarité entre culture du livre et culture des écrans, ce qui oblige, et c'est intéressant, à définir ces deux cultures et à voir ce qui les distingue. Alors c'est du pain béni pour nous, si j'ose dire, car il y a à la fois dans cet exposé des pistes très intéressantes à faire partager aux auditeurs et aux spectateurs de cette émission, et aussi matière à discussion. Bonsoir, Serge Tisseron.
Bonsoir.
Alors, je le disais rapidement, vous êtes psychiatre et psychanalyste, vous êtes aussi directeur de recherche à l'Université Nanterre-Paris-Ouest, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont certains, et un bon nombre d'ailleurs, concernent les écrans et en particulier le jeu vidéo. Le dernier, Fragment d'une psychanalyse empathique, est paru chez Albin Michel. Alors, vous abordez cette question de la complémentarité entre la culture du livre et la culture des écrans par plusieurs biais, la relation aux autres, la structure psychique, la cognition, mais aussi par le rapport que nous entretenons intellectuellement à de grandes catégories que sont, par exemple, le temps ou l'espace. Alors, je voudrais qu'on commence par cet aspect et une première remarque. Est-ce que ce n'est pas, au fond, l'apparition de ces cultures des écrans qui nous a fait comprendre que, jusqu'ici, ce que nous considérions comme la culture était, en fait, la culture du livre ?
Oui. Oui, absolument. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui explique la crainte, voire la répulsion qu'un certain nombre de seniors éprouvent par rapport aux écrans. C'est que depuis la révolution de l'imprimerie, nous vivions dans la culture du livre un peu comme les poissons vivent dans l'eau, c'est-à-dire en ignorant qu'il y a d'autres espèces qui vivent autrement, qui respirent l'oxygène de l'air. Et donc, du coup, lorsque la culture numérique est apparue, la culture numérique qui a donné un coup de fouet, la culture des écrans, eh bien, beaucoup de gens ont eu l'impression que c'était une manière de renverser la culture du livre, de la contester en profondeur, de faire courir le risque que nous allions l'oublier. Et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de risque, parce que l'être humain a inventé l'écriture, puis l'imprimerie, pour prendre en relais certaines de ses capacités mentales, psychologiques, mais que probablement, évidemment, cela ne lui a pas suffi, puisqu'ensuite l'être humain a inventé les écrans à travers le cinéma, la télévision, et aujourd'hui à travers les écrans d'ordinateur et à travers tout ce qu'on appelle le numérique. Donc, en fait, on s'aperçoit que ces deux cultures inventées successivement par l'être humain ont chacune la capacité de prendre en relais certaines fonctions de l'être humain, des fonctions mentales, cognitives, mais aussi des fonctions relationnelles.
Mais Serge Tisseron, vous inscrivez les cultures numériques dans la continuité de culture des écrans qui ne sont pas informatiques. C'est-à-dire quand vous dites culture des écrans, ça commence effectivement avec le cinéma, ça peut se prolonger avec la télévision, mais l'informatique, ça n'est pas une rupture avec ces autres cultures des écrans ?
Alors, si, dans la mesure où, avec l'informatique, la culture des écrans est en passe de totalement s'affranchir de la culture du livre. Alors, je m'explique. Quand on pense culture du livre, culture des écrans, il ne faut pas penser en termes de support. Il ne faut pas penser culture du livre, ah oui, c'est vrai, c'est un livre ouvert devant moi que je suis en train de lire, et culture des écrans, c'est un écran que je suis en train de regarder. La culture du livre, c'est un certain rapport à l'information, et c'est un rapport qui est organisé autour de la construction linéaire, de la succession narrative. C'est-à-dire que lorsque je parle, j'utilise des mots qui s'enchaînent dans la durée, et lorsque je lis, je regarde des mots qui s'enchaînent spatialement, et je construis à l'intérieur de moi un récit qui va s'inscrire dans la durée. Donc dès que j'ai affaire à un livre, j'ai affaire à une culture plus linéaire que les neuroscientifiques appellent plus cristallisée, hein, que d'autres peuvent appeler plus séquentielle. Et cette culture-là, eh bien, elle est très importante à l'être humain, puisque c'est celle qui nous permet d'inscrire les événements qui nous arrivent dans la durée et puis de nous inscrire nous-mêmes, hein, comme sujet de notre propre histoire. Et encore une fois, la culture du livre a eu un effet formidable pour permettre à beaucoup d'humains de se raconter pour un très grand nombre, puisque quand il y avait la culture orale, on pouvait se raconter pour quelques personnes. Grâce au livre, on peut se raconter un très grand nombre, bien avant l'invention des écrans qui permettent d'Internet qui permet de se raconter en plus encore. Et lorsque on pense culture des écrans, il faut de la même manière penser une forme d'intelligence dans laquelle ce qui est en cause, c'est plus un rapport à la spatialité. Mais la culture numérique, enfin l'intelligence narrative n'a pas attendu le livre. Il y a toujours eu des gens qui se racontaient avant qu'on invente l'écriture et l'imprimerie. Et de la même manière, l'intelligence spatialisée nous est nécessaire dans beaucoup de domaines de la vie. Arriver ici au Salon du Livre pour se repérer, eh ben, il faut une bonne intelligence spatialisée, hein. Sinon, on ne trouve pas son chemin. Et donc, du coup, l'intelligence spatialisée a toujours existé, mais la culture des écrans l'a prise en relais. Mais pendant très longtemps, la culture des écrans était prisonnière de la culture du livre. Regardez, le cinéma, pendant très longtemps, a eu pour seul objectif de nous raconter des histoires. D'ailleurs, le grand cinéma hollywoodien est encore un cinéma souvent dans lequel les films tiennent par leurs scénarios, et souvent les scénarios d'ailleurs sont bâtis à partir d'œuvres romanesques à succès. Et donc, du coup, les écrans ont été très longtemps prisonniers de la dimension narrative du livre. Et avec le numérique, ils s'en libèrent. Alors, ils s'en libèrent parce que il suffit d'ouvrir un écran d'Internet, on a compris, on fait son propre chemin. Pourquoi est-ce que le numérique a libéré les écrans de la culture du livre? Parce qu'avant le numérique, dans les écrans, on suivait l'histoire que nous racontait quelqu'un, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Avec le numérique, avec Internet, chacun est invité à construire son propre chemin et à le construire à partir de repères spatialisés qu'il voit apparaître sur l'écran.
Mais même au-delà de ça, Serge Tisseron, est-ce qu'on n'a pas eu tendance à unifier un peu trop ce que c'était que la culture du livre et oublier qu'il y avait même à l'intérieur de la forme de transmission de savoir qui passait par le livre d'autres choses que la linéarité? Je pense par exemple à l'encyclopédie. Si on regarde l'encyclopédie, qui est quand même une sorte d'archétype de ce que c'est que le savoir en livre, on a tous eu des encyclopédies chez nous, pas celle forcément de Diderot et d'Alembert, mais enfin au moins tu l'univers ou l'universaliste, etc. Or, si on regarde ce que c'est que l'encyclopédie, c'est beaucoup plus proche de ce que vous appelez la culture des écrans que ce que c'est que la culture du livre. Parce que quand dans les caractéristiques que vous donnez de la culture des écrans, à savoir spatialisation contre temporalité, à savoir le multiple contre l'un aussi, le livre comme un, et les écrans comme multiples, ou encore la dernière caractéristique est celle de la clôture, c'est-à-dire la culture du livre comme une culture de la clôture, alors que la culture des écrans est une culture de l'inachevé. L'encyclopédie, qui est l'archétype du savoir livresque, c'est un savoir qui est finalement beaucoup plus proche dans ses formes que le savoir des écrans.
Alors, un million de fois oui, bien évidemment, parce qu'il faut cesser de penser en termes de support. C'est-à-dire que dans la mesure où l'être humain a toujours eu ces deux formes d'intelligence, une forme d'intelligence, encore une fois, plus narrative, une autre plus spatialisée, il est bien évident que l'écriture a toujours été habitée par le désir d'y retrouver ou d'y introduire des formes spatialisées d'intelligence. Regardez par exemple l'extraordinaire étonnement de tous les adolescents lorsqu'ils découvrent Arthur Rimbaud. Lorsqu'on a lu avant des récits, d'ailleurs éventuellement des récits en bande dessinée, on est habitué à une construction narrative. On ouvre un livre, on suit une histoire. On ouvre les pages des illuminations. À quoi on est confronté? À des paysages. On est confronté à des paysages, on est invité à voir des couleurs, à entendre des bruits, voire à respirer des odeurs, et on découvre là une forme de littérature qui n'a plus rien à voir avec la culture du livre, au sens où la culture du livre fondamentalement inscrit dans la narration. C'est la même chose en philosophie avec un auteur comme Derrida, en littérature avec un auteur comme Joyce. Les grands écrivains ont souvent essayé de s'affranchir du modèle de la culture du livre, mais avant l'invention du numérique, hein, avant l'invention de l'informatique, il n'y avait pas de lieu à travers lequel cette intelligence spatialisée trouver autant à s'exprimer et surtout à se cultiver. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, on parle d'une culture de l'intelligence spatialisée étayée sur les écrans numériques, alors qu'avant, personne n'évoquait cette éventualité-là, cette dimension-là.
Mais Serge Tisseron, une autre manière de définir ce que c'est que les cultures numériques, ce serait de dire que, au fond, ça n'est pas une culture en soi, mais une forme de métaculture. Ce que je veux dire par là, c'est que la culture des écrans, par les écrans, passe aujourd'hui toutes les autres cultures. C'est-à-dire que par mes écrans, sur Internet, je peux visiter les musées du monde entier, je peux lire les livres quasiment du monde entier de l'histoire, je peux regarder les films, je peux écouter de la musique. Et est-ce que du coup, il n'y a pas... est-ce que ça n'est pas, au fond, le numérique, la culture numérique, une manière, une autre manière de traverser ce que c'était que l'ensemble des cultures jusque-là ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'appelle la culture par le numérique. La culture par le numérique, c'est ce que nous voyons apparaître ici, par exemple au Salon du Livre, avec le livre dit numérique. Le livre numérique, c'est un livre qu'on continue à lire avec une succession de mots, mais c'est en même temps un livre où on peut utiliser des liens hypertextes. Et c'est peut-être un livre, bientôt, qu'on sera amené à lire autrement que la façon dont le créateur l'avait écrit. Et peut-être qu'il y aura d'autres ouvertures possibles que le lien hypertexte, d'autres manières de se faire soi-même le créateur du livre qu'on est en train de lire. Donc le formidable pouvoir de métissage du numérique fait qu'aujourd'hui l'opposition que j'essaye d'opposer entre culture du livre et culture des écrans est en train d'être dépassée par la culture par le numérique. Mais en revanche, il faut comprendre que la meilleure manière de comprendre comment s'installe cette culture, c'est encore de comprendre comment les deux se sont succédés. Or, pendant très longtemps, on n'avait affaire qu'à la culture du livre. Mais ceci dit, avant la culture du livre, il ne faut pas oublier qu'il y avait la culture orale. Or, dans la culture orale, on voit bien que l'intelligence narrative et l'intelligence spatialisée étaient extraordinairement intriquées. Quand on voit des récits de chamans encore qui organisent leurs discours en s'appuyant sur des pictogrammes, en s'appuyant sur le dessin d'un tapis ou en s'appuyant sur les dessins qu'ils font eux-mêmes dans le sable avec un bâton, eh bien, on voit que ces personnes ont la capacité de construire une narration qui passe par les mêmes points, mais qui peut être construite de telle façon que les repères sont parfois utilisés dans un certain ordre et parfois utilisés dans un autre ordre. Mmh. Et donc, d'ailleurs, c'est pas un hasard si l'Afrique de culture orale, en grande partie, est en train de se brancher très vite sur la culture numérique.
Et on a observé la même chose chez les aborigènes d'Australie, par
voilà,
exemple.
Parce que, exactement, parce que ces personnes n'ont pas, si j'ose dire, cultivé des a priori dans la culture du livre, comme nous l'avons fait en Occident. Donc nous sommes en train de dépasser ces a priori. Mais on voit bien avec la culture orale comment fonctionnaient ces deux formes d'intelligence avant l'arrivée du livre, comment le livre a étouffé la culture spatialisée, puisque encore, quand je faisais mes études en philosophie, on nous présentait les images comme inférieures en tout point au texte. C'était le parent pauvre de la culture, les images. C'était une opposition construite sur ce que le langage permettait, en contrepoint, ce que les images ne permettaient pas. Donc on voit l'extraordinaire mépris qui entourait les images et les écrans dans notre culture.
Il cesse ce mépris.
Et le numérique permet d'en sortir.
Il cesse ce mépris, vous trouvez ? Serge Tisseron, est-ce qu'il cesse ce mépris ?
Est-ce qu'il cesse ?
C'est le mot du livre. Est-ce qu'il cesse, certainement ?
Alors, il cesse dans les nouvelles générations. Mais dans les générations de gens qui ont totalement grandi dans la culture du livre, c'est plus compliqué. Mais pas seulement pour des raisons liées à l'utilisation par chacun du numérique. Mmh. Aussi liées à des raisons de fidélité à ses propres parents. Quand vous avez grandi dans une famille où vos parents vous ont interdit systématiquement de lire des bandes dessinées, de regarder la télévision, c'est un peu difficile à 50 ou 60 ans de se dire qu'après tout, ils ont vraiment eu tort, qu'ils vous ont fait rater une marche et que maintenant, vous êtes obligé de ramer pour récupérer le temps qui vous ont fait perdre. Donc, il y a un certain nombre de gens qui, par fidélité familiale, évitent de remettre en cause leur mépris des écrans, mépris de la culture spatialisée que nous proposent les écrans.
Alors, Serge Tisseron, on verra dans la deuxième partie de l'émission ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de cognition, notamment, de transmission suite à du savoir. Mais tout de suite, Thibaut Henneton, qui a dû, cette semaine, répondre à la question que je lui ai posée à l'occasion de la visite de Barack Obama au Proche-Orient. Mais au fait, est-ce qu'il y a la 3G en Cisjordanie ?
Pourquoi n'y a-t-il pas de 3G en Palestine ? La 3G, précision, c'est ce que nous autres Européens nous appelions l'Internet mobile il y a plus d'une décennie. À savoir une technologie de téléphonie cellulaire dont on croyait qu'elle pourrait rivaliser avec l'internet américain qui se répandait alors un peu partout. On dit 3G, mais le nom exact de la techno, c'est UMTS. Et le projet européen a connu de nombreux ratés au début des années 2000. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la 3G cohabite avec Internet, en attendant d'autres technos, la 4G ou pourquoi pas un réseau Wi-Fi public gratuit sur l'ensemble du territoire, on peut rêver. Que viennent faire les Palestiniens là-dedans, me direz-vous? N'ont-ils pas chat plus menaçant à fouetter? À l'origine de cette question, une campagne d'affichage organisée à Ramallah quelques jours avant la première visite officielle de Barack Obama dans le pays, par trois jeunes Palestiniens, dont un jeune graphiste du nom de Mahir Alavneh. Des affiches avec le portrait d'Obama sur fond de bannière étoilée avec ce message. Président Obama, pas la peine d'apporter votre smartphone à Ramallah. Vous n'aurez pas accès à l'internet mobile. Nous n'avons pas de 3G en Palestine. En suivant le compte Twitter de ce Mahir, je tombe sur un autre message adressé au président américain par un ingénieur informatique. Monsieur Obama, allô, non mais allô, vous qui avez largement bénéficié des réseaux sociaux pendant vos campagnes successives, ne cherchez pas une fois à Ramallah, impossible de vous connecter via les deux opérateurs locaux, Watania et Jawal. L'idée de cette campagne est venue au jeune homme d'une anecdote rapportée lors de la dernière campagne présidentielle américaine, qui montrait à quel point Obama était accro à son BlackBerry. BlackBerry qui, sans 3G, n'est pas d'une grande utilité. Évidemment, précise-t-il contre ceux qui jugent cette action pour le moins inutile, l'idée est de protester, par ce biais apparemment futile, mais bon, pas si futile puisqu'on peut ainsi l'évoquer dans cette émission, de protester aussi donc contre les conditions d'entrée à Ramallah, via l'entrée sud de la ville notamment, près du checkpoint de Kalandia, principal point de passage entre Ramallah et Jérusalem, où le trafic routier est quotidiennement bouché. Alors, est-ce que vraiment il n'y a pas de 3G en Palestine? D'après un discours prononcé par la ministre palestinienne des télécoms au Sénat en France, le 1er mars dernier, le secteur des TIC représenterait 20% du PIB palestinien. Mais il doit faire face à une concurrence agressive, celle des opérateurs israéliens qui assurent une couverture pour les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie. Or, Ramallah se situant à proximité de ces colonies, ces mêmes opérateurs israéliens ont tendance à également proposer leur forfait aux Palestiniens. Ils détiendraient à ce jour 20% de parts de marché. Voilà la principale cause de l'absence de 3G en Palestine. Les opérateurs mobiles israéliens ont tout intérêt à ce que Watania et Jawal, les deux opérateurs palestiniens, n'accèdent pas aux fréquences. Et d'ailleurs, les Israéliens, qui ont toute autorité sur les territoires autour de Ramallah, en zone C, s'opposent à leur projet de construction d'antennes relais. Et ce, en violation des accords d'Oslo et de son versant télécommunications, dont on imagine pourtant l'importance sur un territoire aussi morcelé où la circulation physique est constamment contrariée. Dans les faits, précise Grégory Phillips, l'envoyé spécial de Radio France dans la région, il y a bien de la 3G en Cisjordanie. À condition de disposer d'un forfait israélien ou étranger, on pourra en user par le biais de l'itinérance, roaming en anglais. Vous savez, l'itinérance, c'est ce qui se passe quand on quitte la France pour un pays étranger. À peine le sol étranger foulé, vous recevez un texto vous disant « Bienvenue sur le réseau X ou Y local, il vous en coûtera 1000 euros la minute de communication et 10 euros par SMS ». Donc, pourquoi n'y a-t-il pas de 3G en Palestine? Pourquoi les données mobiles ne circulent-elles pas? Eh bien, pour les mêmes raisons qui font qu'il n'y a pas de droit de circulation tout court.
Merci Thibaut. Des liens autour de cette question sur la page de Place de la Toile, une page où vous pourrez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. Retour plateau en direct depuis le Salon du Livre qui se déroule à Paris, Porte de Versailles, pour notre discussion avec le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron autour de la distinction et de la complémentarité que vous dites nécessaire entre la culture du livre et la culture des écrans. Alors on s'est intéressé à l'aspect, disons, de culture générale de cette distinction. Changeons maintenant de biais en examinant la question sous l'angle de la cognition. En quoi livre et écran supposent, selon vous, des régimes de connaissance et d'apprentissage qui diffèrent, Serge Tisseron?
Alors, dès qu'on a affaire à un texte, on a affaire à une succession de mots, et donc on doit se rappeler ce qu'on a lu avant hein, pour comprendre ce qu'on est en train de lire. D'ailleurs, dans un roman, il peut arriver qu'on retourne quelques pages en arrière, ou même si on ouvre un livre au hasard, souvent on tombe sur des phrases dont on ne comprend pas la signification, et on est obligé d'aller voir ce qu'il y a eu avant. Si on lit tout d'un coup « Il s'avança vers elle », on ne sait pas de qui il s'agit, on ne sait pas si le monsieur est bien intentionné, ou même si c'est peut-être un animal, et la dame, on ne sait pas comment elle est ni où elle est. Donc il faut tout de suite aller voir ce qu'il y a eu avant. Mais dès que vous êtes devant un écran, vous êtes fixé tout de suite, parce que vous voyez quand même un espace, vous voyez des mimiques, vous voyez des intentions qui sont traduites sur les mimiques. Et donc du coup, dans une culture du livre, ce qui est important, c'est la mémoire de l'événement, de manière à pouvoir se situer dans une narration, comprendre les narrations qu'on nous propose et construire soi-même des narrations. D'ailleurs, c'est pour ça que la culture du livre a un rapport si fort avec la chronologie. D'ailleurs, le livre est inséparable de la biographie. Dans Aimant Jean racontent leur propre histoire. Et n'oubliez pas que le livre des livres, dans notre culture, la Bible, commence par une chronologie. Voilà, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Alors, du côté des écrans, c'est complètement le contraire. Donc, dès qu'on a affaire à un écran, on a affaire à une information qui nous paraît à peu près claire. Mais en revanche, c'est à nous d'aller chercher des éléments pour la clarifier. On voit deux personnes, il et elle. Bon, ben, y a un environnement, il faut aller comprendre cet environnement. S'il y a un arbre avec une pomme, on a compris tout de suite de quoi il s'agit. Mais c'est nous qui allons chercher les éléments. Et d'ailleurs, c'est extrêmement important dans tous les jeux vidéo où il faut constamment que le joueur trouve dans une multitude de possibilités celle qu'il va choisir. Et il va donc faire fonctionner son intelligence spatialisée. Et du coup, la mémoire qui va être mise en jeu est beaucoup moins une mémoire de l'événement qu'une mémoire qu'on appelle de travail, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer très vite plusieurs éléments présents sur l'écran, présents dans un espace géographique, qu'on traverse, et pouvoir très vite en faire la synthèse de manière à savoir quelle conduite avoir à l'intérieur de cet espace. Et donc, du coup, cette mémoire événementielle, elle va être axée sur l'action. Hein, et les écrans, aujourd'hui, sont inséparables de l'interactivité, c'est-à-dire la possibilité de modifier le paysage auquel on a affaire à l'intérieur de l'écran et d'y tracer son propre chemin.
Mais Serge Tisseron, ça affecte même jusqu'à la forme prise par le raisonnement, vraisemblablement, puisque dans le rapport de l'Académie des sciences, vous parlez d'une culture du livre qui, du point de vue de la cognition, serait disons plus proche du raisonnement hypothético-déductif, alors que on va dans la culture des écrans être plus proche de l'intuition. Mais là, on touche quand même à des fondements de ce que c'est que le raisonnement. Même.
Alors, avant d'en arriver là, il faut comprendre que les régions cérébrales qui traitent l'information spatialisée ont toujours existé chez l'homme. Un néandertalien, il fallait qu'il se repère, qu'il retrouve sa famille, sa tribu, s'il s'en éloignait. Donc, l'intelligence spatialisée a toujours fonctionné. Encore une fois, ce qui est nouveau avec les écrans, c'est qu'elle prend beaucoup plus d'importance dans nos vies et surtout qu'elle prend beaucoup d'importance comme support d'apprentissage. Alors, comment est-ce que ça va se traduire par des modifications cérébrales, on n'en sait encore rien. Rendez-vous compte que c'est quand même, tout ça est quand même extraordinairement récent. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la découverte de l'écriture, l'invention de l'écriture, la génération de l'écriture, a fait que certaines régions cérébrales qui sont dans la partie langage se sont spécialisées dans la lecture et l'écriture. Donc peut-être qu'à l'avenir, certains neurones qui sont présents actuellement dans les régions du cerveau qui gèrent l'information spatiale vont se spécialiser peut-être pour gérer des informations plus complexes qu'elles ne sont amenées à le faire dans la vie courante.
Mais comment ne pas succomber à l'idée qui est véhiculée quand même assez largement par les contempteurs de l'Internet et des réseaux, et je pense en priorité à quelqu'un comme Nicolas Kerr, qui a publié plusieurs livres autour de cette question dont l'Internet nous rend-il bête. Comment donc ne pas succomber à l'idée qu'il y a quand même des choses qui sont de l'ordre de la perte? C'est en tout cas comme ça que ces gens voient. C'est-à-dire, ils voient de la perte dans deux grandes catégories cognitives, disons, qui seraient d'une part l'attention et la mémoire. Comment ne pas succomber à l'idée que dans ces deux catégories-là, au moins, on a des choses qui sont de l'ordre de la perte quand une culture, celle des écrans, prend plus de place que l'autre, celle du livre, Serge Tisseron.
Alors, pour ce qui s'agit de la mémoire, rappelez-vous que c'était déjà les diatribes de Platon, quelques siècles.
Au moment de l'invention de l'écriture.
Qui disait que c'était une catastrophe parce que l'homme, utilisant un support pour inscrire les événements, n'allait pas faire d'efforts pour essayer de s'en souvenir. Et du coup, l'inquiétude de Platon était que l'histoire nous devienne étrangère, devienne extérieure à nous, et que privée de nos tablettes d'écriture, nous ne sachions plus rien. Voilà. Et bon, on s'aperçoit qu'avec la culture du livre, c'est quand même le contraire qui s'est passé, mais c'est une culture qui après un moment où effectivement des choses ont été inscrites et ont pu être oubliées par ceux qui les avaient inscrites, c'est devenu une culture qu'on connaît bien, qu'on a bien connue, que tous les élèves des écoles connaissent encore. C'est une culture axée sur la répétition. Hein, la culture du livre est une culture où on apprend par répétition, par réitération, par automatisme. La culture du livre stimule énormément les automatismes pour nous simplifier la vie dans beaucoup d'autres domaines. Donc, du point de vue de la mémoire, on pourrait dire la même chose.
C'est la tension, alors.
Mais il faut comprendre qu'au niveau de la mémoire, ce qui est en train de se passer, c'est que nous nous rappelons peut-être moins des choses que nous avons vues, mais nous nous rappelons le chemin par lequel les retrouver. Et imaginez quelqu'un au milieu d'une grande bibliothèque. Il va peut-être pas connaître, il va évidemment pas se rappeler à chaque moment ce qu'il a lu dans chaque livre, mais si tout d'un coup il veut trouver quelque chose, il va probablement se repérer sur le rayonnage, sur la couleur de la couverture, et il va donc retrouver ce qu'il cherchait exactement comme dans un ordinateur. C'est pas absolument nouveau.
Et on pense toujours à Montaigne qui, dans un des essais consacrés, je crois, au livre d'ailleurs, explique à quel point il est incapable de souvenir des lectures de ses propres livres et qu'il est obligé d'annoter les livres pour se souvenir au moment où il les ouvre qu'il les a déjà lus.
Exactement.
Mais sur la question de l'attention.
Alors attention, concentration. Là, il y a des travaux très intéressants de Daphné Bavelier, qui était aux États-Unis. Qui est maintenant à Lausanne, justement sur la manière dont la pratique de certains jeux vidéo, pas de tous les jeux vidéo, mais de ces jeux vidéo précis qu'on appelle des FPS, First Person Shooter, vous savez, ces jeux qui effraient également les parents, où on voit une arme au premier plan, on tire sur des ennemis. C'est des jeux où il faut aller très vite, où il faut se rappeler les souterrains ou les espaces qu'on traverse. Et elle a montré que ce sont des jeux qui augmentent les capacités de concentration et d'attention, mais d'une manière généralisable à d'autres activités. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui y jouent n'ont pas seulement une meilleure capacité de concentration et attention dans le jeu, ils ont également une meilleure capacité de concentration dans beaucoup de circonstances de la vie. Alors évidemment, quand on joue une heure par semaine, c'est bien. Quand on joue deux heures par jour, ça devient la catastrophe parce que il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne fait pas et du coup, il y a des pertes. Mais voyez, en termes de concentration et d'attention, c'est pas si évident que ça. Et puis, faut pas oublier que Nicolas Carr, il a quand même beaucoup écrit à un moment où le rapport entre texte traditionnel et lien hypertexte n'avait pas encore été beaucoup travaillé. C'est vrai qu'à l'époque où il a écrit, il y avait tellement de liens hypertextes introduits dans le livre numérique qu'on était constamment tenté de se détourner du texte original pour aller voir un tas de choses et du coup on ne savait plus très bien où on en était dans la lecture du texte original.
Et c'est vrai que l'internet applicatif notamment a beaucoup changé ça. C'est vrai que quand on est dans une application, on n'est pas forcément tenté de toujours bouger beaucoup.
Ce
n'était pas le cas avec Nicolas Carr quand il crée.
Absolument. Et actuellement d'ailleurs, on le voit ici sur certains stands, il y a des travaux pour faire en sorte que les liens hypertextes deviennent peut-être moins nombreux, plus pertinents, ou qui s'accompagne de signalétique qui permet à certains d'aller voir les liens hypertextes qui les intéressent et pas d'autres, de manière à ce que la lecture du texte tel que l'auteur l'avait écrit à l'origine ne soit pas troublée. Donc je crois que ce que Nicolas Carr est vraiment lié à un état de la technologie, mais comme les technologies évoluent très vite, il ne faut pas tirer de conclusions à long terme. On peut simplement dire que ce qu'il a écrit était valable quand il a écrit, mais les choses évoluent.
Serge Tisseron, est-ce que on est tous affectés par ces changements cognitifs, même nous, et je m'inclus dans ça, gens qui provenons de la culture de l'ancien monde, qui demeurent dans ce monde-là, mais enfin moi qui avons été élevés par le livre, alors beaucoup par la télévision aussi, mais enfin par le livre. Est-ce que vous, par exemple, Serge Tisseron, vous sentez en vous des capacités cognitives qui bougent? Est-ce que vos capacités cognitives anciennes sont perturbées par les écrans? Est-ce que c'est expérimental, auto-expérimental aussi, ces conclusions?
Alors, pour autant que l'auto-expérimentation ait une valeur scientifique, alors oui.
Elle a au moins une valeur romanesque.
Au moins une valeur romanesque. Oui, alors ce que je peux vous dire, c'est que je suis moins attaché à l'information, à une culture qui serait centrée sur la verticalité. Je suis moins attaché au diplôme, aux reconnaissances officielles des gens qui émettent des messages, et je suis beaucoup plus sensible aux échanges latéraux, à la culture qu'on pourrait dire Wikipédia, même si Wikipédia est perfectible, c'est-à-dire cette culture dans laquelle on est très vigilant sur ce que pensent les pairs, les collègues, les pairs PIRS, et on est peut-être moins tributaire de ce que peuvent penser des vieux maîtres qui ont été très performants en leur temps, mais qui peuvent aussi aujourd'hui parfois être dépassés par l'évolution technologique. Ça oui, je suis aussi beaucoup plus sensible au fait que l'hyperspécialisation est une catastrophe. Vouloir tout maîtriser dans un domaine aujourd'hui, c'est quelque chose de contre-productif, parce qu'on s'aperçoit qu'au contraire, c'est le métissage, c'est l'intérêt d'un domaine et d'autres domaines qui fait aujourd'hui qui donne aujourd'hui à certains penseurs, à certains créateurs, un pouvoir d'innovation que peu de gens avaient par le passé.
Alors, Sartisseron ne va pas s'étendre sur les préconisations du rapport de l'Académie des sciences en matière d'éducation et d'enseignement, parce que ça a été largement fait, et notamment dans Rue des écoles, l'émission qui nous succède. Mais une question néanmoins en rapport à l'émission qu'on a diffusée la semaine dernière avec l'ethnographe américaine Dana Boyd, à la question de savoir quelle attitude devaient adopter les parents envers les enfants quant à leur rapport au numérique, évidemment. Elle expliquait que les changements étaient tels dans ce qui était vécu en ce moment qu'il n'était pas certain que les parents comprennent mieux ce qui se passait que leurs enfants. Et donc, elle expliquait qu'il valait mieux que les parents n'imposent pas, disons, des avis définitifs sur les usages des technologies de leurs enfants, mais au contraire, se campent sur la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est en gros poser les bonnes questions ou apprendre aux enfants quelles bonnes questions se poser. Et donc, du coup, on se dit d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ça comme attitude, voilà. Et on se dit aussi, si vous êtes d'accord, que c'est quand même un bouleversement. Alors, on sait qu'il y a eu des méthodes, des gens qui ont essayé d'enlever leurs enfants un peu différemment. Il y a des méthodes éducatives alternatives. Enfin, globalement, c'est pas ça quand même, ni l'éducation ni l'enseignement. Que ça affecte, au fond, des choses qui sont très très fortes. C'est-à-dire que jusque cette évolution cognitive, ça affecte jusqu'au rapport de l'autorité la plus évidente qu'est le parent à son enfant.
Oui, c'est ce qu'on appelle des fois l'éducation inverse. C'est-à-dire que les parents, les adultes en général, les parents en particulier, comprennent qu'ils ont beaucoup à apprendre des pratiques de leurs enfants, même petits. Alors, dans le rapport de l'Académie des sciences, on dit en effet combien il est important aujourd'hui de considérer les enfants comme des partenaires à part entière. On ne peut pas faire évoluer les choses sur le modèle, les enfants, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, une heure c'est bon, deux heures, bonjour les dégâts. Non, parce que vous pouvez faire un très mauvais usage de technologie numérique sur une heure par jour et un très bon usage sur deux heures par jour. Et ça, si vous ne vous intéressez pas à l'usage, si vous ne questionnez pas l'enfant, si vous ne mettez pas derrière l'écran, vous n'en savez rien. Alors, l'autre aspect de ce que vous évoquez, c'est très important aujourd'hui, en effet, de laisser les échanges se développer, mais c'est également très important d'avoir à l'esprit que l'être humain a inventé la culture du livre avant la culture des écrans. Mmh. Ça veut dire, en d'autres termes, que si l'enfant a bien posé les repères spatiaux et les repères temporels dans ses premiers jeux, il ne va pas courir de risque dans les écrans, ou très peu. Mais si l'enfant a été confronté trop tôt aux écrans, trop massivement aux écrans, s'il a été trop seul face aux écrans, s'il n'a pas pu construire ses repères temporels, il va être en situation d'immersion, il ne va pas pouvoir construire sa feuille de route à l'intérieur des écrans, il ne va pas pouvoir se percevoir comme un sujet de son propre parcours, et ça devient très préoccupant. C'est ce qu'on appelle parfois l'addiction, la dépendance aux écrans, même si les mots sont contestables et erronés.
Alors, on va poursuivre notre conversation, Serge Tisseron, et aborder les aspects plus de construction psychologique qui sont liés à ces distinctions entre les deux cultures, mais tout de suite, la lecture de la semaine. La lecture de la semaine, il s'agit d'un article du New York Times, on le doit à John Tierney, et il s'intitule « Dans les réseaux sociaux, les bonnes nouvelles se répandent plus vite que les mauvaises ». Les mauvaises nouvelles font vendre, telle est la règle suivie par les journaux de 20h et les titres de la presse sur la foi de chiffres, les classements des ventes et de diffusion, et de l'instinct viscéral des journalistes et rédacteurs en chef. Mais, poursuit le journaliste aujourd'hui, qu'il y a d'autres moyens de diffuser et d'observer la diffusion de l'information, les chercheurs découvrent qu'il y a de nouvelles règles qui entrent en jeu. En scannant le cerveau des gens et en traçant leurs emails ou leur activité en ligne, les neuroscientifiques et les psychologues ont remarqué, selon lui, que les bonnes nouvelles pouvaient se répandre plus vite et plus loin que les désastres et les drames. La règle du sang qui coule marche pour les médias de masse qui veulent juste capter votre attention, explique Jonah Berger, qui est psychologue à l'université de Pennsylvanie. Ils veulent vos yeux, mais peu leur importe ce que vous ressentez quand vous partagez un article avec vos amis ou vos pairs, vous vous souciez beaucoup plus de leur réaction. Vous n'avez pas envie de passer pour un oiseau de mauvais augure. Jonah Berger tire ce constat d'une expérience avec son équipe. Il a regardé pendant 6 mois comment les gens partageaient des milliers d'articles du site du New York Times en classant ces articles sous diverses catégories. Alors, une première trouvaille que le journaliste du New York Times considère d'ailleurs comme la découverte la plus importante en sciences sociales depuis ce début de siècle, ce qu'on peut un peu contester, mais enfin bon, est que les articles de la rubrique « Science » apparaissent beaucoup plus souvent dans cette liste des sites des liens les plus partagés que les autres. Alors ça viendrait du fait que la science suscite une sorte de sentiment d'admiration respectueuse et incite donc les lecteurs à partager cette émotion positive avec d'autres. Les lecteurs ont aussi tendance, mais ça on le sait, à partager les articles qui les ont excités ou amusés ou qui ont inspiré des émotions plus négatives comme la colère ou l'angoisse. En revanche, ils partagent très peu des articles qui les ont laissés dans un état de tristesse un peu molle. Ils ont besoin donc ces lecteurs d'être sollicités, ils préfèrent les bonnes nouvelles aux mauvaises. Plus l'article est positif, plus il sera partagé. Alors, dans une autre tentative, pour comprendre quelle information fait le buzz, des neuroscientifiques ont scanné le cerveau des gens au moment où ils entendaient parler de faits nouveaux. Ensuite, en observant ce que les gens racontaient à d'autres personnes, ils ont pu en déduire quelles étaient les informations que les gens partageaient. Bon. Alors, vous pensez évidemment que les gens ont tendance à partager les idées qui ont plus à voir avec la mémoire, donc celles qui font réagir le cerveau dans les zones associées à l'encodage de l'information et à la récupération des souvenirs. Eh bien, pas du tout. L'étude menée par les universités du Michigan et de Californie montre que le buzz agit ailleurs. Il agit dans les zones du cerveau associées à la cognition sociale, c'est-à-dire le souci qu'on a des autres. Si ce sont ces zones qui sont mobilisées à l'audition d'une information, eh bien, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit partagée avec plus d'enthousiasme et qu'elle continue donc à se répandre. Penser à ce qui pourrait plaire à l'autre est donc plus important et diffuse l'information, et c'est plus important que l'information qui nous excite nous-mêmes. Voilà. Alors on pourrait trouver ça tout à fait encourageant et avoir l'espoir donc que dans les réseaux sociaux se diffuse une autre vision du monde, moins catastrophique que ce qui nous arrive par d'autres médias. Mais la suite de l'article est beaucoup moins euphorique, car comme l'explique le journaliste, cette conscience sociale entre en jeu quand les gens partagent des informations sur leurs sujets favoris, à savoir eux-mêmes. Évidemment, les réseaux sociaux sont le lieu privilégié du discours sur soi, et en tant que ce discours sur soi est plus construit dans les réseaux sociaux que dans la vie, parce que dans la vie on parle aussi beaucoup de soi, il a manifestement tendance à prendre plus en compte le fait qu'une information positive plaira plus au destinataire qu'une information négative. Bon, ce qui explique, selon l'auteur, par exemple, que le grand nombre de statuts Facebook qui mettent en scène les vacances des usagers, les fêtes, etc., enfin, bref, les moments agréables de leur vie. Deuxième raison d'être moyennement enthousiaste, des études menées en Utah, mais aussi en Allemagne, par des équipes différentes, ont montré que toute cette positivité dans les réseaux ne rendait pas les gens plus heureux. Alors ça, c'est quand même étrange. Au contraire, plus les gens passent de temps sur Facebook, plus ils ont l'impression que leur vie est nulle. En tout cas, beaucoup moins intéressante que celle de leurs amis, d'où le développement d'une forme de jalousie rampante, conséquence du phénomène d'autopromotion qui a l'œuvre dans les réseaux sociaux. Voilà, vous retrouverez cette lecture lundi sur Internet Actu. Une proposition musicale de notre stagiaire Antoine Tricot, Léo Le Bug, membre du collectif de DJ marseillais Chinese Man, qui mixe ici, vous l'aurez reconnu évidemment, un sample du Requiem de Mozart, Lacrimosa, avec des paroles du duo de rappeurs américains M.O.P. Je ne sais pas si on dit M.O.P. ou M.O.P. Alors, quatre raisons d'écouter ce morceau, selon nous. D'abord, il est assez beau et assez étonnant. Deuxièmement, c'est une pratique du mix et du sample, ici Mozart et du rap, qui est constitutive des cultures numériques. Troisièmement, cet album est en téléchargement gratuit sur le site du collectif, une bonne raison. Et quatrièmement, le rappeur s'appelle Léo Le Bug, donc il mérite d'être mentionné dans une émission qui s'intéresse au numérique. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques, troisième et dernier volet de notre discussion avec le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron autour de l'articulation culture du livre, culture des écrans. Alors on a examiné un peu le point de vue culturel de cette question, puis le point de vue cognitif. Intéressons-nous maintenant à notre biais, celui qui concerne directement votre champ, Serge Tisseron, à savoir celui de la psychologie. Alors d'abord une question un peu d'ordre général. En quoi, c'est pas forcément intuitivement évident, un média, et pas simplement un support, mais un média affecte-t-il la psyché? Comment peut s'expliquer l'idée même que notre constitution psychique puisse être différente, pas complètement, mais un peu, selon que nous vivons dans un environnement où domine la culture du livre ou dans un environnement où domine la culture des écrans, Serge Tisseron?
Oui, alors, il faut bien comprendre que il n'y a pas que le support, comme vous dites très justement, qui change. Hein. Les pratiques changent complètement. Et regardez par exemple l'extraordinaire encouragement que représente Internet pour les jeunes, pour se prendre un pseudonyme, pour se fabriquer un avatar, un personnage dans les jeux vidéo en ligne. Et donc déjà, on comprend que les jeunes aujourd'hui grandissent dans un monde où ils sont constamment invités à adopter des identités diverses. Alors ajoutez à cela le fait que le fameux Stade du miroir, hein, dont on parlait dans les années 1950, inauguré par Jacques Lacan, théorisé par Jacques Lacan, ça fonctionne plus du tout pareil, parce que l'enfant découvre son image parallèlement dans les miroirs et sur les écrans. Or, dans les miroirs, l'image qu'il découvre de lui-même est inversée. Quand on a un grain de beauté sur la joue droite, la personne qu'on voit dans le miroir là sur la joue gauche, alors que sur les écrans, sur les tirages papier, sur les, quand on lui met son image sur l'ordinateur ou la télé, peu importe, eh bien l'enfant voit, se voit tel que les autres le voient, c'est-à-dire que son image est redressée. Et donc aujourd'hui, le tout petit enfant, dès qu'il découvre son apparence, découvre deux apparences, une apparence redressée, une apparence inversée. Évidemment, il en déduit qu'il a deux séries d'apparences et il a raison. Et quand on en a deux, on peut en avoir trois. Et entre l'apparence et l'identité, vous savez, le chemin est court. Et donc l'enfant aujourd'hui grandit très vite avec l'idée d'avoir plusieurs identités. Il va sur Internet, il les essaye, il les pratique à travers les pseudos et les personnages. Et donc du coup, il va grandir très différemment de l'adulte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de l'adulte qui a grandi dans un autre monde.
Mais Sacha Tisseron, en vous écoutant, parce qu'il y a cette caractéristique-là, bon, celle des identités, disons, qui est effectivement quelque chose qui est assez bien documenté, qu'on s'intéresse un peu aux questions numériques. Mais par exemple, si on prend un autre aspect des choses qui peuvent changer dans la construction psychologique, il y a la manière dont on se protège des situations traumatiques. Bon. Et vous expliquez que, par exemple, au refoulement, a succédé plutôt le clivage. Alors vous allez nous expliquer pourquoi d'abord, mais quand on voit la place, quand on considère la place que le refoulement a dans la théorie freudienne, notamment pour la constitution de la névrose, si ça n'est plus le refoulement qui opère mais quelque chose d'autre qui est par exemple le clivage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de névrosé?
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de malades.
Ah ouais, plus en tout cas de névrosés. Alors directement des psychotiques, je ne sais pas.
Oui, mais il faut comprendre que d'abord Freud a parlé du clivage, même s'il en a peu parlé. Il l'a découvert à la fin de sa vie. D'autres auteurs comme Sandor Ferenczi, eux, en ont énormément parlé. Mais la nouveauté est dans le fait que le refoulement marche pas bien aujourd'hui pour les enfants. Qu'est-ce que c'est le refoulement? C'est le fait que vers 4-5 ans, l'enfant qui a des désirs amoureux et des désirs agressifs très forts pour ses parents va décider de réprimer tout ça à l'intérieur de lui et de mettre le couvercle par-dessus.
Donc, qu'est-ce que les écrans ont à voir là-dedans?
Et les écrans ont à voir là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, l'enfant est constamment confronté par les écrans, mais pas seulement par la télé, mais aussi par toutes les publicités dans les rues, les publicités dans les revues. L'enfant est constamment confronté à des représentations érotiques, voire pornographique et à des représentations hyper agressives. Et donc, du coup, il ne peut pas repousser à l'intérieur de lui des représentations qu'il concerne, parce que ces représentations lui sont constamment mises sous les yeux. Alors, comment il fait? Eh bien, il sépare sa vie entre des il met des cloisons dans son esprit, un petit peu comme on pourrait mettre des cloisons dans un loft. Il sépare des espaces. Et puis, de la même manière qu'une fois qu'on a cloisonné des espaces dans un loft, on peut passer d'une pièce à l'autre, et bien dans sa tête, il passe d'une pièce à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va être complètement dans des représentations agressives ou des représentations érotiques. Et puis, il y a des moments où il ne va plus y être du tout. Et il va pouvoir passer en une fraction de seconde de l'un à l'autre. Ça, c'est le clivage. Et on voit aussi que ce qui différencie le clivage aujourd'hui du clivage tel qu'il fonctionnait à l'époque de Freud, c'est quand il a été décrit, il concernait des situations à haut potentiel traumatique. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il se banalise et qu'un grand nombre de situations banales de la vie sont gérées par le clivage. Alors ça ne veut pas dire que le refoulement n'existe pas. Il peut exister dans chacune des pièces, sur le modèle de cloison psychique, mais en revanche, il n'est plus le mécanisme prédominant. Ce qui explique d'ailleurs que aujourd'hui, on le voit dans les faits divers d'actualité, on découvre de plus en plus de gens qui tout d'un coup accomplissent des actes dont on ne les aurait jamais cru capables.
C'est-à-dire mais dans tous les sens, c'est négatif plutôt?
Dans tous les sens, mais en général, les médias font plutôt l'écho des actes agressifs de la part de gens qui n'avaient aucun comportement agressif jusque-là. Si vous voulez, à l'époque de Freud, des gens agressifs, on pouvait les repérer dans un parcours d'agression. C'est ce qu'on disait d'ailleurs encore dans les années années 1980. On pouvait repérer des enfants qui étaient destinés manifestement, qui avaient de la peine à installer le refoulement, donc qui pouvaient être agressifs. On pouvait les prévoir. Aujourd'hui, on voit constamment des faits divers dans lesquels des personnes ont des comportements hyper agressifs, alors qu'ils sont décrits comme plutôt gentils, affables, polis, etc. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement du clivage. Mais encore une fois, il ne faut pas s'en inquiéter. Ce n'est pas parce que c'est différent que c'est plus grave.
Mais justement, Serge Tisseron, à la fin d'une émission, on a passé en revue ce qui distinguait les cultures du livre et les cultures des écrans, la culture des écrans, où on voit que Alain succède, ou disons joue en plus le multiple, s'ajoute la question de l'infini, où on est en train de changer ou d'avoir une nouvelle forme de raisonnement, l'autre intelligence spatiale prend un peu le pied sur une intelligence plus temporelle, où le clivage est en train de prendre un peu le pas sur la question du refoulement, etc. On se dit deux choses. D'abord, vous allez faire un peu de prospective humaniste, Serge Tisseron. À quoi ressemblera donc, selon vous, l'être humain de demain, c'est-à-dire qu'il est complètement né dans un endroit, dans un environnement où la culture des écrans l'emporte sur la culture du livre, première chose. Et deuxièmement, est-ce que cet être humain, vous l'envisagez, vous, du point de vue de la thérapie, du thérapeute que vous êtes, avec optimisme ?
Alors, il n'y a pas de raison d'être pessimiste dans l'usage que les gens font des technologies numériques. Il y a des raisons d'être pessimiste parce que, comme on n'en a pas évoqué, ce n'est pas le sujet, mais les technologies numériques représentent des menaces sur la liberté par la surveillance qu'elles rendent possible sur chacun. Mais en revanche, je crois qu'il y a des formidables nouveautés qui sont en train de s'ouvrir, et notamment autour de la conscience qu'ont de plus en plus les jeunes de participer de la planète entière. Et que parallèlement aux inquiétudes liées à des phénomènes conjoncturels, je crois qu'on peut espérer beaucoup dans la naissance d'une conscience planétaire.
Eh bien, merci pour cette dernière parole humaniste et optimiste. Merci d'être venu donc dans Place de la Toile. Toutes vos références sont sur la page de Place de la Toile. Merci beaucoup au public qui a été attentif et nombreux. Restez assis ou restez là, puisque dans quelques instants, Louise Touré recevra le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. C'était donc Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Antoine Tricot à la technique aujourd'hui depuis le Salon du Livre. C'était Élise Leu, Pascal Dupont, Tanguy Le Corneau et réalisation Olivier Guérin. Tout de suite, un énorme Larsen et Ligne de Fuite, la chronique d'Edoui Plenel. Bonne soirée, bonne semaine.